À la cour, l'an neuf fut célébré de façon assez discrète, en raison à la fois et du deuil et du gel. On s'offrit néanmoins le gui et l'on échangea les cadeaux rituels. Les comptes du trésor laissaient prévoir pour l'exercice qui se clôturerait à Pâques un excédent de recettes de 73 000 livres, dont 60 000 livres provenaient du traité d'Aquitaine, sur lequel Robert d'Artois se fit allouer 8 000 livres par le roi. C'était bien justice, puisque depuis 6 mois, Robert gouvernait le royaume pour le compte de son cousin. Il activa la nouvelle expédition de Guyenne, où les armes françaises remportèrent une victoire d'autant plus rapide qu'elles ne rencontrèrent pratiquement aucune résistance. Les seigneurs locaux, qui essuyaient une fois de plus la colère du suzerain de Paris contre son vassal de Londres, commencèrent à regretter d'être nés gascons. Édouard, ruiné, endetté et qui se heurtait à des refus de crédit, n'avait plus les moyens d'expédier des troupes pour défendre son fief. Il envoya des bateaux pour ramener sa femme. Celle-ci venait d'écrire à l'évêque de Winchester afin qu'il en fît part à tout le clergé anglais. « Vous, ni autre de bon entendement, ne devez croire que nous laissâmes la compagnie de notre Seigneur sans trop grave cause et raisonnable, et si ce ne fut pour un péril de notre corps par le dit Hugues qui a le gouvernement de notre dit Seigneur et de tout notre royaume, et nous voudrait déshonorer comme nous en sommes bien certaines pour l'avoir éprouvé. Si longtemps que Hugues sera comme il est, tenant notre époux en son gouvernement, nous ne pourrons rentrer au royaume d'Angleterre sans exposer notre vie et celle de notre très cher fils à péril de mourir. » Et cette lettre se croisa justement avec les nouveaux ordres qu'au début de février, Édouard adressait au shérif des comtés côtiers. Il les informait que la reine et son fils, le duc d'Aquitaine, envoyés en France dans un désir de paix, avaient, sous l'influence du traître et rebelle Mortimer, fait alliance avec les ennemis du royaume. De ce fait, au cas où la reine et le duc d'Aquitaine débarqueraient des nefs par lui, le roi envoyé, et seulement s'ils arrivaient avec de bonnes intentions, sa volonté était qu'ils fussent reçus courtoisement. Mais s'ils débarquaient de vaisseaux étrangers et montrant des volontés contraires aux siennes, l'ordre était de n'épargner que la reine et le prince Édouard pour traiter en rebelles tous les autres qui sortiraient des navires. Isabelle fit, par son fils, informer le roi qu'elle était malade et hors d'état de s'embarquer. Mais au mois de mars, ayant appris que son épouse se promenait joyeusement dans Paris, Édouard II eut un nouvel accès de violence épistolaire. Il semblait que ce fût chez lui une affection cyclique qui le saisissait tous les 3 mois. Au jeune duc d'Aquitaine, il écrivait ceci. « Pour faux prétexte, notre compagne, votre mère, se retire de nous. » À cause de notre cher et féal Hugues de Spencer, qui toujours nous a si bien et si loyalement servi. Mais vous voyez, et tout chacun peut voir, couvertement, notoirement et s'égarant contre son devoir et contre l'état de notre couronne, elle a attiré à soi le Mortimer, notre traître et ennemi mortel prouvé, atteint et en plein parlement jugé, et s'accompagne à lui en hôtel et dehors, en dépit de nous et de notre couronne et des droitures de notre royaume. Et encore fait-elle pis, si elle peut, quand elle vous garde en compagnie de notre dit ennemi devant tout le monde, en très grand déshonneur et vilenie, et en préjudice des lois et usages du royaume d'Angleterre que vous êtes souverainement tenu de sauver et maintenir. » Il mandait également au roi Charles IV. « Si votre sœur nous aimait et désirait être en notre compagnie, comme elle vous a dit et en a menti, sauf votre révérence, elle ne serait partie de nous sous prétexte de nourrir paix et amitié entre nous et vous, toute chose que je crus en bonne foi en l'envoyant vers vous. Mais vraiment, très cher frère, nous nous apercevons assez qu'elle ne nous aime mis, et la cause qu'elle donne, parlant de notre cher parent Hugues de Spencer, est feinte. Nous pensons que c'est désordonnée volonté quand, si ouvertement et notoirement, elle retient en son conseil notre traître et ennemi mortel, le Mortimer, et s'accompagne en hôtel et dehors à ce mauvais. Aussi vous devriez bien vouloir, très cher frère, qu'elle se châtiât et se comportât comme elle devrait faire pour l'honneur de tous ceux à qui elle tient. Veuillez nous faire connaître vos volontés de ce qu'il vous plaira de faire selon Dieu, raison et bonne foi, sans avoir regard à impulsion capricieuse de femme ou autre désir. » Message de même teneur était envoyé à nouveau vers tous les horizons. Au père, au dignitaire, au prélat, au pape lui-même. Les souverains d'Angleterre dénonçaient chacun l'amant de l'autre, publiquement, et cette affaire de double ménage, de deux couples où se trouvaient trois hommes pour une seule femme, faisait la joie des cours d'Europe. Les amants de Paris n'avaient plus de ménagement à prendre. Plutôt que de chercher à feindre, Isabelle et Mortimer firent front et se montrèrent ensemble en toutes occasions. Le comte de Kent, que sa femme avait rejoint, vivait en compagnie du couple illégitime. Pourquoi se serait-on soucié de respecter les apparences dès lors que le roi lui-même mettait tant d'ardeur à publier son infortune? Les lettres d'Édouard n'avaient réussi en somme qu'à établir l'évidence d'une liaison que chacun accepta comme fait accompli et immuable. Et toutes les épouses infidèles de penser qu'il existait une grâce particulière pour les reines et qu'Isabelle avait bien de la chance que son mari fût bougre. Mais l'argent manquait. Plus aucune ressource ne parvenait aux émigrés dont les biens avaient été séquestrés, et la petite cour anglaise de Paris vivait entièrement d'emprunts aux Lombards. À la fin de mars, il fallut faire appel une fois de plus au vieux Ptolomée. Il arriva chez la reine Isabelle, accompagné du signor Boccas, qui représentait les Bardis. La reine et Mortimer, avec une grande affabilité, lui exprimèrent leurs besoins d'argent frais. Avec une égale affabilité et toutes les marques du chagrin, Messer Spinello Ptolomei refusa. Il avait pour cela de bons arguments. Il ouvrit son grand livre noir et montra les additions. Messire de Halspaye, le lord de Cromwell, la reine Isabelle. Sur cette page-là, Ptolomei fit une profonde inclination de tête. Le comte de Kent et la comtesse, nouvelle révérence. Le lord Maltravers, lord Mortimer. Et puis, sur quatre feuilles à la file, les dettes du roi Édouard Plantagenet lui-même. Roger Mortimer protesta. Les comptes du roi Édouard ne le concernaient pas. « Mais, my lord, » dit Ptolomée, « pour nous, ce sont toujours, toutes ensemble, les dettes de l'Angleterre. Je suis peiné de vous refuser, grandement peiné, et de décevoir si belle dame que madame la reine. Mais c'est trop me demander que d'attendre de moi ce que je n'ai plus et que vous avez. » Car cette fortune, qu'on dit nôtre, elle n'est faite ainsi que de créances. Mon bien, my lord, ce sont vos dettes. Voyez, madame, continua-t-il en se tournant vers la reine, voyez, madame, ce que nous sommes, nous autres pauvres Lombards, toujours menacés, qui devons à chaque roi nouveau payer un don de joyeux avènement, et combien en avons-nous payé, hélas, depuis 12 ans? À qui, sous chaque roi, l'on retire le droit de bourgeoisie pour nous le faire acquitter par bonne taxe, et même 2 fois si le règne est long. Voyez cependant ce que nous faisons pour les royaumes. L'Angleterre coûte à nos compagnies 170 000 livres, le prix de ses sacres, de ses guerres, de ses discordes, madame. Voyez mon vieil âge. Je me reposerais depuis bien longtemps si je n'avais à courir sans cesse pour récupérer des créances qui nous resservent à aider d'autres besoins. On nous dit avaricieux, avides, et l'on ne songe point aux risques que nous prenons pour prêter à chacun et permettre aux princes de ce monde de continuer leurs affaires. Les prêtres s'occupent des petites gens, de faire aumône aux mendiants et d'ouvrir hôpitaux pour les infortunés. Nous nous occupons des misères des grands. » Son âge lui permettait de s'exprimer de la sorte, et la douceur de son ton était telle qu'on ne pouvait s'offenser du discours. Tout en parlant, il lorgnait de son œil entrouvert un bijou qui brillait au col de la reine et qui était inscrit à crédit dans son livre au comte de Mortimer. « Comment notre négoce a-t-il commencé? Pourquoi existons-nous? On ne se le remémore guère, poursuivait-il. Nos banques italiennes se sont créées lors des croisades parce que seigneurs et voyageurs répugnaient à se charger d'or sur les routes peu sûres où l'on était dévalisé à tout propos, ou même dans les camps qui n'étaient point hantés que de gens honnêtes. Et puis il y avait les rançons à payer. Alors, pour que nous acheminions l'or à leur compte et à notre péril, les seigneurs, et ceux d'Angleterre tout particulièrement, nous ont donné gage sur les revenus de leurs fiefs. Mais quand nous nous sommes présentés dans ces fiefs avec nos créances, pensant que le sceau des grands barons devait être de suffisante obligation, nous n'avons pas été payés. Alors nous avons fait appel au roi, lesquels, pour garantir les créances de leurs vassaux, ont en échange exigé que nous leur prêtions à eux aussi. Et voilà comment nos ressources gisent dans les royaumes. Non, madame, à mon grand méchef et déplaisir, cette fois je ne puis. » Le comte de Kent, qui assistait à l'entretien, dit « Soit, messire Ptolomeï, nous allons devoir donc nous adresser à d'autres compagnies que la vôtre. » Ptolomeï sourit. Que croyait-il, ce jeune homme blond qui se tenait assis les jambes croisées et caressait négligemment la tête de son lévrier ? Porter sa clientèle ailleurs ? Cette phrase-là, Ptolomeï, en sa longue carrière, l'avait entendue plus de 1000 fois. La belle menace. « My lord, quand il s'agit d'aussi grands emprunteurs que vos personnes royales, vous pensez bien que toutes nos compagnies se tiennent informées et que le crédit qu'il me faut à regret vous refuser, aucune autre compagnie ne vous l'accordera. Messer Bocas, que vous voyez, est avec moi pour les besognes des Bardis. Demandez-lui. Car, madame, c'était toujours à la reine que Ptolomeï revenait. Cet ensemble de créances nous est devenu bien fâcheux par le fait que rien ne les garantit. Au point où en sont arrivées vos affaires avec le sire roi d'Angleterre, celui-ci ne va point garantir vos dettes, ni vous les siennes, je pense, à moins que vous soyez en intention de les reprendre à votre compte. Ah, si cela était, peut-être pourrions-nous encore vous porter appui. » Et il ferma complètement l'œil gauche, croisa les mains sur son ventre et attendit. Isabelle s'entendait peu aux questions de finances. Elle leva les yeux vers Roger Mortimer. Comment fallait-il prendre les dernières paroles du banquier ? Que signifiait, après si longs palabres, cette soudaine ouverture ? « Éclairez-nous, messer Ptolomeï, » dit-elle. « Madame, » reprit le banquier, « votre cause est belle et celle de votre époux fort laide. La chrétienté sait les traitements méchants qu'il vous a infligés, les mœurs qui noircissent sa vie et le mauvais gouvernement qu'il impose à ses sujets par la personne de ses détestables conseillers. En revanche, madame, vous êtes aimée parce que vous êtes aimable, et je gage qu'il ne manque pas de bons chevaliers en France et ailleurs qui seraient prêts à lever leur bannière pour vous et vous rendre votre place en votre royaume. » Fût-ce en boutant hors de son trône le roi d'Angleterre, votre époux. « Messer Ptolomeï, » s'écria le comte de Kent, « comptez-vous pour rien que mon frère, tout détestable qu'il soit, ait été couronné ?»« my lord, » répondit Ptolomeï, « les rois ne sont vraiment tels que du consentement de leurs sujets. Et vous avez un autre roi tout prêt à donner au peuple d'Angleterre. » Ce jeune duc d'Aquitaine qui semble montrer bien de la sagesse pour son jeune âge. J'ai beaucoup vu les passions humaines. Je sais assez bien reconnaître celles qui ne se défont point et entraînent les plus puissants princes à leur perte. Le roi Édouard ne se délira pas du Despenser, mais en revanche, l'Angleterre est toute disposée à acclamer tel souverain qu'on lui offrira pour remplacer le mauvais sien et les méchants qui l'entourent. « Certes, vous m'opposerez, madame, que les chevaliers qui s'offriront à combattre pour votre cause seront chers à payer. Il faudra leur fournir harnois, vivres et plaisir. Mais nous, les Lombards, qui ne pouvons plus faire face à soutenir votre exil, nous pourrions encore faire face à soutenir votre armée si Lord Mortimer, dont la valeur n'est à personne inconnue, s'engageait à en prendre la tête. Et si, bien sûr, il nous était garanti que vous repreniez à votre compte les dettes de messire Édouard pour les acquitter le jour de votre succès. » La proposition ne pouvait être plus clairement faite. Les compagnies lombardes s'offraient à jouer la femme contre le mari, le fils contre le père, l'amant contre l'époux légitime. Mortimer n'en était point aussi surpris qu'on s'y serait attendu, ni même n'affecta de l'être lorsqu'il répondit « La difficulté, messer Ptolomeï, est de réunir ces bannières. Cela ne se fait point dans une cave. Où pourrions-nous rassembler 1000 chevaliers que nous prendrons à notre solde ? En quel pays ? Les convoquer en France, nous ne pouvons, si bien disposés que soit le roi Charles envers sa sœur, la reine. » Il y avait de la connivence entre le vieux Siennois et l'ancien prisonnier d'Édouard. « Le jeune duc d'Aquitaine, dit Ptolomeï, n'a-t-il pas reçu en propre le comté de Ponthieu qui vient de madame la reine, Et le Ponthieu ne se trouve-t-il pas vis-à-vis l'Angleterre et jouxte le comté d'Artois, où Monseigneur Robert, bien qu'il n'en soit pas le tenant, compte force partisans, ainsi que vous le savez, my lord, puisque vous y fûtes abrité après votre évasion ?» Le Ponthieu, répéta la reine songeuse. Quel est votre conseil, gentil Mortimer ? L'affaire, pour se débattre seulement de paroles, n'en était pas moins une offre ferme. Ptolémée était prêt à délivrer quelques crédits à la reine et à son amant, afin qu'ils puissent faire face à l'immédiat et partir pour le Ponthieu organiser l'expédition. Et puis en mai, il fournirait le gros des fonds. Pourquoi mai ? Ne pouvait-il pas avancer cette date ? Ptolémée calculait. Il calculait qu'il avait, de concert avec les Bardis, une créance à récupérer sur le pape. Il demanderait à Guccio, qui se trouvait à Sienne, de se rendre à cet effet en Avignon. Le pape avait fait savoir incidemment par un voyageur qu'il accueillerait volontiers une visite du jeune homme. Il fallait profiter des bonnes dispositions du Saint-Père. Une occasion aussi pour Ptolémée, la dernière peut-être, de revoir ce neveu qui lui manquait beaucoup. Et puis, il y avait un petit amusement dans la pensée du banquier. Comme Valois naguère à propos de la croisade, comme Robert d'Artois au sujet de l'Aquitaine, le Lombard se disait pour l'Angleterre « C'est le pape qui paiera ». Alors, le temps que Boccas, qui partait pour l'Italie, passa par Sienne, le temps que de Sienne Guccio allât en Avignon, qu'il arrivât à Paris, « En mai, madame, en mai. Que Dieu bénisse vos besognes ».